D'après le programme, une page de plastique noir écrite en blanc genre radiographie, on en était aux deux tiers du show. Et Corso se demandait pour la centième fois par quel snobisme bizarre ce genre de prestation ringarde. On avait opté pour la terminologie américaine, on parlait désormais de « new burlesque », était revenu à la mode. Il s'était déjà farci Miss Velvet, une brune coiffée à la Louise Brooks et couverte de tatouages, Candy Moon et sa danse des sept voiles, Gypsy la Rose, capable d'ôter ses chaussures en faisant le petit pont. On attendait Mlle Nitouche et Levadol. Corso n'avait jamais été attiré par ce type de show et le physique de ces dames ne l'incitait pas à l'indulgence, plutôt grasse, surmaquillée et grimaçante, elle se situait aux antipodes de ce qui l'excitait. Cette pensée lui rappela Emilia et les premières conclusions du divorce que son avocat lui avait envoyé dans la journée. C'était la véritable raison de sa mauvaise humeur. En matière juridique, ses conclusions ne marquaient pas la fin de la procédure, mais au contraire, le début des hostilités. Un torrent d'injures et de mensonges dicté par Emilia elle-même, auquel il allait falloir répondre avec la même virulence. L'enjeu du combat était leur enfant, Thaddée, petit garçon qui marchait sur ses 10 ans et dont il voulait obtenir la garde principale. Corso ne luttait pas tant pour conserver son fils que pour l'éloigner de sa mère. À ses yeux, le mal absolu, une haute fonctionnaire d'origine bulgare, adepte du SM dur. En remuant ses idées, une giclée acide lui inonda la gorge et il se dit que tout cela allait finir en ulcère, en cancer du foie ou, pourquoi pas, en homicide volontaire. Mlle Nitouche était arrivée. Corso se concentra. Une blonde à peau laiteuse et hanches de mammouth. Elle ne portait déjà plus qu'un boa de plumes, 2 étoiles argentées sur les mamelons et un string noir qui avait bien du mal à faire le tour du sujet. Soudain, l'artiste se pencha pour farfouiller dans son derrière. Elle finit par y dénicher une guirlande de Noël qu'elle extirpa en jappant comme un petit chien. Corso n'en croyait pas ses yeux. Les feuilleuses se mit à tourner sur elle-même telle une toupie géante en équilibre sur ses talons de 12, faisant virevolter son ruban de soie sous les applaudissements enthousiastes des spectateurs. Il se résolut à envisager enfin la raison de sa présence à 23 heures passées dans ce rade obscur. 12 jours auparavant, le vendredi 17 juin 2016, le cadavre d'une artiste du Squonk, Sophie Serres, alias Nina Weiss, 32 ans, avait été retrouvé aux abords de la déchetterie de la Poterne des Peupliers, près de la place d'Italie. Nue et ligotée avec ses sous-vêtements, la jeune femme avait été défigurée d'une manière horrible. Le tueur avait figé son visage sur un cri démesuré, en incisant les commissures de ses lèvres jusqu'aux oreilles et en lui enfonçant une pierre au fond de la gorge pour maintenir la bouche largement ouverte. L'enquête avait été confiée au commandant Patrick Bornec, patron du groupe 3 de la brigade criminelle. Le flic, qui connaissait son boulot, avait appliqué la méthode standard. Photos et prélèvements sur la scène de crime, porte à porte, visionnage des bandes de vidéosurveillance, audition des proches, recherche de témoins, etc. On s'était intéressé en priorité aux clients du Squonk. Bornec s'imaginait faire moisson d'obsédés sexuels et de pervers déglingués. Il en avait été pour ses frais. La clientèle était composée de jeunes branchés, de financiers coquets, d'intellos amateurs de second degré qui trouvaient très chic d'assister à des spectacles d'un autre temps. Par ailleurs, la recherche des pointus et autres violeurs récemment libérés ou dans la ligne de mire de la BRP n'avait rien donné non plus. L'équipe de Bornec avait aussi creusé chez les adeptes du bondage, les liens avec les sous-vêtements rappelant les pratiques BDSM. En vain. Tous les fichiers criminels informatisés avaient été passés au crible, du TAJ, traitement des antécédents judiciaires, au SALVAC, système d'analyse des liens de la violence associée au crime, pour n'obtenir à l'arrivée qu'un zéro pointé. On avait également étudié les quelques plaintes impliquant des sous-vêtements. Rien à retenir, sauf si on voulait ouvrir une boutique de lingerie féminine. L'enquête de voisinage, côté déchetterie et aussi à l'adresse de la victime, rue Marceau, à Ivry-sur-Seine, s'était réduite à pot de balle.